Conférence spirituelle sur la dernière semaine de l'Église par le Père Marie Dominique Philippe, le 20 septembre 2001 à Saint-Judas.
Je ne dis pas qu'on va faire un cours de théologie mystique ce soir, mais c'est pour revenir un peu sur ce que je vous disais. Il y a un passage dans l'Écriture qui est très important. Dans l'évangile de Saint Jean, à propos de la dernière semaine, l'Église, le mystère de l'Église vit en dimension qualitative moins forte, quantitative, plus étendue. Le mystère de la prédication du Christ. Et c'est pour ça que ce serait si intéressant de saisir l'ordre de sagesse. On ne quitte pas la sagesse, l'ordre de sagesse de la prédication du Christ. Je crois, on peut le dire, on ne peut pas le dire aux savants. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire aux savants, qu'on ne dit qu'aux enfants. Les novices sont des enfants, les religieux sont les enfants du Père. Notre plus grande dignité, c'est d'être un enfant du Père. Dans un jardin d'enfants. Et c'est le Père qui nous surveille, qui veille sur nous par Jésus. Et c'est vrai, Jésus, on voit très bien en face de Nicodème, commence par le dégonfler, la baudruche, il la dégonfle. Parce que tout de suite, Nicodème avait envie de retourner dans le sein maternel. Est-ce que Jésus fait partie de ces sectes qui pensent qu'on retourne dans le sein maternel? Puisque de ce temps-là, il y avait une secte, en effet, qui disait qu'on pouvait renaître. Alors, est-ce que Jésus pense quand il part de renaître? Est-ce que c'est ça? Il prend ça très au sérieux. C'est beaucoup plus sérieux que ce que dit Nicodème, parce que c'est divin. Et Nicodème, le comprend biologiquement. Ce grand savant théologien comprend matériellement. Et Jésus est obligé d'expliquer. C'est une fameuse leçon. Et on comprend tellement par la cause matérielle tout. On a beaucoup de peine de comprendre le réalisme de la causalité finale. Ce n'est pas une métaphore, c'est réel. Et c'est ça qu'on doit toujours essayer de saisir dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle signifie pour nous, concrètement ? En faisant ça, vous faites de la théologie. Pendant votre noviciat, vous faites de la théologie si vous lisez la parole de Dieu. Avec votre intelligence qui s'ouvre à la recherche de la vérité. Et vous comprenez que la parole de Dieu a des sens multiples. Quand Jésus parle du paraclet, c'est très utile pour nous. Il faut être très attentif dans l'évangile de Jean à propos du paraclet. Parce qu'on n'emploie plus paraclet. On supprime le terme. C'est très dommage. Si le Saint-Esprit s'est donné la peine, et c'est vraiment le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit s'est donné la peine d'employer un mot nouveau dans l'évangile de Jean, le trouver nulle part ailleurs, le paraclet. Et c'est Jésus qui le dit dans la dernière semaine. Nous sommes peut-être dans la dernière semaine. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Si j'essaie de comprendre la vie apostolique de Jésus dans son développement, selon l'évangile de Jean, il y a un ordre qui est très beau. C'est l'ordre de la sagesse. C'est Marie, sans doute. Parce que Marie, elle était reçue chez Jean, mais Jean s'est mis à l'école de Marie. Il y a un ordre dans l'évangile de Jean. Il y a une dernière semaine. Et l'Église, 2000 ans, et une dernière semaine. Sans doute, hein, j'en sais rien, pas plus que vous. Mais si j'essaie de comprendre le développement de l'Église, quel a été le sommet dans le développement de l'Église? Dans la vision de l'Esprit-Saint, du paraclet qui conduit l'Église. Je me pose la question, j'ai le droit de la poser. Et je demande au Saint-Esprit de m'expliquer quel a été le sommet dans la conduite de l'Église. Est-ce que ce sommet, c'est pas lorsque l'Église a proclamé la gloire de Marie? La gloire du Christ, elle est proclamée dès les noces de Cana. Il manifesta sa gloire et les disciples crurent en lui. L'Église, c'est Marie. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est Marie, c'est la mère de l'Église. Marie nous aide à comprendre l'Église. L'Église, c'est moins que Marie. Hein. Marie est plus aux yeux du Christ que l'Église. Il ne faut pas l'oublier. Et plus l'Église dans son pèlerinage. Et Marie nous fait comprendre ce pèlerinage de l'Église. Quel est le moment où l'Église a manifesté ce pourquoi elle est? Je crois que c'est quand l'Église a proclamé l'Assomption. C'est un moment très, très grand dans l'Église. Partout qu'il y avait des instituts théologiques, on a demandé à tous les professeurs de se réunir dans une fois, d'une façon exceptionnelle, pour dire leur avis sur la proclamation de l'Assomption. J'étais à Fribourg, comme il n'y avait pas à Fribourg de faculté philosophique, je faisais partie de la faculté de théologie. C'est la plus belle réunion théologique à laquelle j'ai assisté. Il n'y avait que les professeurs de théologie qui étaient là. Nous, comme philosophes, faisant partie de la faculté, on était invités. Et on a lu, le Saint-Père demande à tous les théologiens qui enseignent de dire leur avis. Est-il opportun, oui ou non, de proclamer Marie dans son mystère de l'Assomption? coopérer directement au Saint-Père proclamant l'Assomption. Là, il y a tout de suite un professeur, je ne le nomme pas, c'est pas la peine, tout de suite un professeur qui dit que chacun donne son avis. Parce que moi, je ne suis pas d'accord. Alors, il a donné sa raison, c'est tout simplement à cause des protestants. Les protestants vont se mettre à hurler parce qu'on proclame Marie dans son Assomption, comme un dogme. Bon, il a expliqué. Puisqu'on est dans la recherche, au contraire, de l'unité, il ne faut pas mettre encore une... Tous les autres étaient pour que le Saint-Père proclame l'Assomption. Donnant, et le pape demandait que les théologiens donnent leur raison. Et le Saint-Père a consulté toute l'Église, tous les théologiens qui étaient dans des instituts, des universités catholiques. Alors là, c'était une véritable réunion de professeurs de théologie qui était vraiment très, très belle. Et la grande raison, c'est Marie Immaculée. Le péché est une conséquence, la mort est une conséquence du péché. Si nous sommes condamnés à mourir, c'est à cause de la première faute d'Ève. Vous y penserez quand vous serez tout près de la mort. Hein. Vous direz, c'est pas drôle d'avoir comme grand-mère Ève. Hein. Quand tu t'es laissé prendre par le démon, c'est nous tous qui avons été entraînés. La mort est une conséquence du péché. S'il n'y avait pas eu le péché, on ne serait pas mort. Alors, oui, tout ce qui provient de la mort, ces angoisses proviennent presque toujours de la mort. Nous mourrons. Nous sommes obligés de déposer notre corps là. Et le premier qui verra le corps mort, ce sera l'âme qui montera au ciel. Elle regardera son pauvre corps. Il est là. Et elle s'élevera. Or, Marie, Immaculée, n'est pas morte. On ne sait pas si elle est morte ou si elle n'est pas morte. Ce n'est pas défini. Mais on sait que si elle a connu la mort, c'est par miséricorde. Tandis que nous ne connaîtrons la mort, ce n'est pas par miséricorde. Ça, c'est sûr. Parce que des quantités de nous refuseraient de mourir si c'était par miséricorde. Ils auraient trop peur. Ils diraient, non, je ne veux pas mourir. Pour montrer directement au ciel. Il y a eu toujours le jugement particulier, c'est sûr. La mort est une conséquence du péché. Elle est liée au péché. Et c'est pour ça, du reste, qu'elle fait peur comme conséquence du péché. Elle n'est pas naturelle. Hein. Elle l'est d'une certaine manière, philosophiquement. Elle est naturelle, en sens que l'union de l'âme et du corps... C'est une union telle que ça se comprend très bien qu'il y ait la mort. Si nous sommes sans la grâce, c'est compréhensible la mort. À la fois c'est naturel et puis en ses conséquences du péché. Marie n'a pas connu la mort. Marie, la mère du Christ, mère du corps du Christ. Il est normal que la mère du Christ ne connaissent pas la mort et soient tout de suite montés dans le ciel. Donc le grand mystère, la proclamation de Pierre. Je crois, alors là c'est personnel, je crois que c'est la chose la plus grande que l'Église pouvait faire. Proclamer que notre mère est montée au ciel sans connaître la mort et que le corps et l'âme de Marie est monté au ciel, même si elle a connu la mort par surcroît d'amour pour nous, par surcroît de miséricorde, disons. Ce serait plutôt par miséricorde. Je crois que c'est la chose la plus grande que pouvait faire l'Église. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette consultation de tous les théologiens. Le pape voulait que ce soit une chose d'Église et que tous les théologiens participent à ce geste si beau, proclamer que notre mère est âme et corps dans le ciel, l'Assomption. Or, Jésus termine sa vie sur terre par la croix et la gloire. Il est normal que l'Église épouse corps du Christ, connaissent aussi cette gloire et qu'il y ait comme un moment après ce très grand moment, l'Église continue. Et sans doute, les plus grandes luttes sont après. Ça montre combien la proclamation du mystère de l'Assomption est quelque chose de très grand. Proclamer tous ces mystères sur le Christ, c'est très beau. J'allais dire, c'est normal, c'est Jésus. Mais là, c'est la créature, Marie, c'est la mère. Je crois que le Paraclet a voulu que le dernier grand acte de l'Église, ce soit cette proclamation. Après, on voit très bien, on est en quelque sorte dans la dernière semaine. La dernière semaine, elle commence à partir de la résurrection, de la glorification et la résurrection de Lazare. On est en face de la dernière semaine où Jésus se met à l'écart. Et dans la dernière semaine, il y a des choses magnifiques, les choses les plus grandes, c'est dans la dernière semaine. Si c'est vrai que nous vivons la dernière semaine de l'Église, on voit bien que dans l'Église, nous vivons des choses très grandes. L'action de l'Esprit Saint, selon le prophète, ce n'est plus quelques hommes particuliers qui sont les grands prophètes, mais c'est comme l'Église tout entière, les charismatiques, c'est comme l'Église tout entière qui vit sous le souffle du Paraclet. Le Paraclet souffle, même pour les enfants, la petite Thérèse, cette petite sainte merveilleuse, et autour d'elle, Saint-Martin disait, il y a toute une couronne de saints autour d'eux. La petite Thérèse de l'enfant Jésus. Et en même temps, les luttes les plus affreuses. Le démon, dans la dernière semaine de l'Église, il se doute à ça. La proclamation du dogme de l'Assomption a dû être pour le démon une fureur. Proclamer une petite créature, au point de vue dignité, Marie est moins digne que tous les anges, supérieure à tous les anges, reine du ciel et de la terre. Et c'est vrai, le démon, depuis la proclamation de l'Assomption, est entré dans une fureur extraordinaire. Et nous assistons à ces fureurs du démon. C'est bien sous l'action démoniaque que les derniers événements sont passés. Ça dépasse le point de vue de l'homme. C'est une rage qui ne peut être qu'angélique, qui passe dans le cœur de l'homme. C'est vrai, on vit des choses terribles au point de vue force, destruction, au point de vue corruption de la pensée, attaque contre la foi. Rome, dans sa corruption, n'est pas grand-chose à côté de ce qui se passe aujourd'hui. Une corruption de mœurs terribles. Et tout ça pour attaquer la foi. Alors je crois, c'est pas plus que ça, je peux pas dire plus, mais qu'il y a comme un parallélisme très beau. Tout ce qui nous est donné dans l'évangile de Jean illumine le parcours de l'Église. Je n'en dis pas plus. Aimer de découvrir l'ordre de sagesse qui existe dans l'évangile de Jean. C'est un ordre de sagesse qu'on peut découvrir grâce à un point de vue de théologie mystique. Et c'est pour ça que, sans doute, la première chose que la théologie mystique doit faire, c'est de regarder cet ordre de sagesse pour comprendre l'ordre de sagesse dans l'Église. Parce qu'elle est beaucoup plus difficile à comprendre dans l'Église. Vous comprenez bien. Parce que les hommes n'obéissent pas toujours. Alors Dieu est obligé de continuer toujours son plan, mais en acceptant les révoltes des hommes. Alors, c'est pour ça qu'on dit que Dieu écrit en ligne droite, tout droit, avec des courbes. Tout simplement à cause de ça. C'est que l'ordre de la sagesse n'est plus unique. Il existe à travers des libertés fallacieuses, des libertés humaines qui n'acceptent pas cet ordre. Autrement, les œuvres de Dieu sont toujours droites. Mais dans les œuvres de Dieu s'infiltrent des choses fausses. Des hommes qui trahissent des hommes qui s'imposent. Alors ce n'est plus en ligne toute directe. La ligne directe demeure à travers les saints, mais la ligne directe est constamment brisée par tous ceux qui, en raison de l'orgueil, veulent réaliser leur œuvre. L'Église, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint et du Paraclet. C'est donc pas une œuvre humaine. C'est le Paraclet qui est venu en second. Il est bon pour vous que je m'en aille, pour que nous soyons conduits par le Paraclet. Et le Paraclet nous aide à ce point de vue-là à être vraiment des enfants du Père, des enfants de Jésus, des fils. Il nous aide à nous aimer les uns les autres et à nous aimer si fortement et à réaliser ensemble l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Paraclet qui fait ça. Et c'est en ce sens-là que l'évangile de Saint Jean nous est si cher, il nous éclaire sur l'Église. Il nous donne des lumières sur l'Église qu'on n'aurait pas sans l'évangile de Jean. Parce que c'est écrit en grandes lettres pour le Christ, en petites lettres pour l'Église. Vous voyez, Platon a eu quelquefois des visions très curieuses qui n'était pas vrai pour les hommes, mais qui était vrai par rapport à Dieu. Le gouvernement divin est écrit en grandes lettres pour ceux qui gouvernent, en petites lettres pour les autres. C'est vrai pour l'Église par rapport à Jésus. La vie du Christ est écrite en grosses lettres. L'Église, c'est écrit en grosses lettres quand on la regarde dans la lumière du Christ. Alors tout s'éclaire. Mais quand on ne la regarde pas dans la lumière du cheminement du Christ, on n'y voit rien. On n'y comprend rien. On tourne le dos constamment. Donc la théologie mystique montrera dans la vie du Christ, comment il y a cet ordre magnifique. Il n'y a pas une vie humaine qui est aussi ordonnée que celle de Jésus. Un ordre très mystérieux, très grand, et qui, dans la vie apostolique, éclaire le mystère de l'Église. Le mystère de l'Église n'est qu'un complément, complementum, un complément qui n'ajoute rien au Christ, mais qui complète pour nous la vie du Christ. Et vu de ce côté-là, l'Église, c'est le Christ pour nous. Vous voyez, quand on a des regrets de ne pas avoir été contemporain de la vie du Christ, ça arrive comme ça. On se dit, pourquoi je suis né au XXe siècle, au XIXe siècle, l'Église était déjà vieille. Pourquoi je ne suis pas né en même temps que Nicodème ? Alors j'aurais pu voir le Christ. Et Jésus nous apprend qu'en voyant nos frères, nous le voyons. Qu'en le voyant dans les saints, nous le voyons. Nous avons beaucoup plus de facilité que ceux qui vivaient auprès de Jésus de croire la divinité du Christ. Parce qu'il y a tous ces siècles de l'Église qui sont là, qui nous témoignent de ça, cette présence de Jésus, mystérieuse, étonnante. Alors, il y a un passage qui est très beau, très grand. C'est lorsque Jésus promet, dans la dernière semaine, les chapitres 14, 15, 16, vous savez bien, ces chapitres promettent le paraclet. Il est dit que le paraclet nous permettra une lecture intérieure de la parole de Dieu. On lit en remontant par la finalité. C'est ça la lecture intérieure, c'est de commencer par la finalité. Nous, nous commençons par le devenir. On regarde le petit enfant, progressivement, puis c'est quand il est homme qui comprend ce que c'est que la finalité. Quand il est tout gosse, il ne sait pas ce que c'est. Et c'est vrai que tout est commandé par le mystère de la croix. Tout le mystère de l'union hypostatique, de l'incarnation, doit se voir dans la lumière de la croix. Jésus est venu pour nous sauver. Il est venu pour être crucifié. Nous sauver en étant crucifié. Ça, c'est la folie de la croix. C'est ce qui finalise toute sa vie. Là, vous voyez, c'est pas étonnant que l'Église elle-même ne connaissent pas sur la terre la gloire. Elle a connu des moments de gloire. Fin du 12e, début du 13e. Elle a connu de la gloire, des sommets. Et maintenant, elle connaît des chemins durs, très durs. Mais elle n'est pas pour être glorifiée sur la terre. L'Église, le Christ n'a pas été glorifié sur la terre. L'Église, elle aussi. Et c'est vrai qu'être chrétien, aujourd'hui, c'est bien rare. Que ça vous aide à avoir un poste important. Et bien souvent, c'est l'inverse, comme au point de départ. Il y a ce grand mystère que la parole de Dieu qui nous est donnée magnifiquement dans le Christ et par le Christ nous donne une connaissance de Dieu et du Christ et de Marie et de l'Église et de nous-mêmes. Il faut saisir, il faut comprendre. La parole de Dieu a en elle-même des sens très divers. Saint Thomas parle souvent de tous les sens de la parole de Dieu. Et nous devons nous-mêmes essayer de comprendre cela. Ce que Saint Thomas a dit, ça nous aide. Et puis peut-être aujourd'hui, le Seigneur nous permet de saisir d'une façon plus précise encore le mystère de la parole de Dieu. La parole de Dieu a un sens, comme toute parole, une signification qui tient à la parole. Dieu n'a pas inventé de langue. Le Christ, c'est bien malheureux, il aurait inventé la langue chrétienne. Et le baptême nous aurait donné cette langue chrétienne infuse. Non. C'est très extraordinaire, ça. Que la parole de Dieu, comme parole de Dieu, peut se traduire dans toutes les langues. Et elle demeure parole de Dieu. Elle a une diversité selon toutes les cultures et elle garde d'être la parole de Dieu. Alors évidemment, nous avons pour la parole de Dieu un respect très spécial pour la parole de Dieu. En hébreu, en araméen, la parole de Dieu en grec, la parole de Dieu en latin. Et puis, après, en toutes les langues. Il y a un sens premier attaché à la parole humaine, puisque Dieu n'a pas inventé de langue pour le croyant. Dieu aurait pu inventer une langue pour le croyant. On aurait fait entre croyants, parlant tout de suite la langue du chrétien. Il n'a pas voulu ça. Il y a une raison, hein. Il y a une raison. C'est que Dieu a voulu respecter l'individuation, le respect particulier que le corps apportait. Alors, est-ce que c'est une conséquence du péché ou est-ce que c'est une volonté expresse de Dieu indépendante du péché? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Il ne faut pas tout résoudre. Hein. C'est vrai. Selon l'Écriture, c'est une conséquence du péché voulu par Dieu. Étant donné l'orgueil de l'homme, la tour de Babel. C'est évident, mais c'est écrit selon le langage mythique. Il faut comprendre ce langage mythique. L'orgueil de l'homme aurait été plus grand s'il n'y avait qu'une langue. L'homme est obligé de s'humilier par la diversité des langues, les diversités des cultures. Il a une culture, il n'a pas la culture de tous les hommes. Il n'y a que Jésus qui avait la culture de tous les hommes. Et Marie, la culture féminine de tous les hommes. Après, la foi est pour nous tous la même, mais elle s'exprime différemment. Alors, dans la parole de Dieu, il y a cette expression première, le langage araméen, le langage grec, le langage latin. Puis après, le langage, puisque c'est le langage humain, il a des sens différents selon les cultures. La même langue si on l'entend à travers les différents siècles de culture, varie. Elle a des accentuations différentes. Si on pouvait écouter quelqu'un du temps de saint Thomas, on verrait qu'il parlerait très différemment. Il parlerait le langage de son temps, comme nous parlons du langage de notre temps. C'est encore une diversité, ça. Il y a les lieux, il y a le temps. Et puis, le langage reste sensible, il est adéquat pour les réalités sensibles, mais dès qu'il veut exprimer des réalités qui ne sont plus sensibles, le langage doit prendre des tournures différentes pour exprimer ce qui ne se voit pas, ce qui ne se touche pas, et qui peut s'exprimer intellectuellement. À travers un langage sensible, on exprime des choses spirituelles. Et non seulement le langage doit exprimer des choses spirituelles, mais il doit exprimer aussi des choses divines. Dieu s'en sert. Il se sert de la langue du pays pour exprimer quelque chose qui n'est plus du pays, mais qui est de la patrie, du ciel. Je vous disais tout à l'heure que ce que nous disait Catherine de Sienne à propos de la langue divine, en ne parlant de la gangue, de l'écorce, et puis ensuite du fruit, pour saisir le sens divin de la parole de Dieu. Quand Jésus dit « Mon Père qui est aux cieux », Jésus se sert du terme « Père, Papa ». Il lui donne une signification nouvelle, toute nouvelle, qui n'est plus la simple signification du moment où les gens disent papa au point de vue humain, père au point de vue humain, une signification nouvelle. C'est une paternité divine. Et le contexte montre bien cette signification divine. Et la foi, quand Jésus dit mon Père, Père qui est aux cieux, mon Père, seul le croyant rejoint la pensée intime du Christ. La pensée intime du Christ, quand le Christ s'adresse à son Père. Et Jésus s'adresse à son Père avec un amour beaucoup plus grand que le nôtre. Et la signification du mot « Père » exprime cet amour. Et nous voyons comment nous pouvons préciser la signification profonde de la parole de Dieu, sens divin. Et quand Jésus dit « Père », il peut exprimer, et il exprime, un secret. son lien d'amour avec le Père.